Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Mon invitée en ce jeudi 2 mai est une organisatrice de balles, connue du tout Paris, comme on disait jadis. Ça existe donc encore les balles à Paris? Eh ben oui, la bonne vieille tradition populaire se perpétue dans quelques lieux huppés de la capitale. Mais où, sur quels airs, quelle musique danse-t-on aujourd'hui? La baronne de Paname est là pour répondre à nos questions. Le réveil culturel, c'est tous les jours, de bon matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible entre autres sur franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amar, Maëlle Ray, notre jeune stagiaire, est toujours avec nous. À la technique ce matin, Antoine Vioza. C'est une émission réalisée par Vincent Abouchard.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Se déplace avec ses disques, ses vinyles, ses CD, son ordinateur. Elle se déplace d'un lieu chic à un autre, là où on organise aujourd'hui à Paris des balles. Bonjour Mélina Sadi.
Bonjour, alors, merci pour cette invitation.
Alors racontez-nous d'abord comment vous êtes devenue la baronne de Paname, l'organisatrice des balles les plus courues de la capitale. Moi je ne savais même pas que ça existait encore, cette tradition.
Oh, ça fait 10 ans que nous battons le pavé. En fait, on travaille sur la valorisation de Paris à travers la culture du bal. Donc on balade notre bal des quartiers populaires aux salons huppés, comme vous dites, de la capitale. On balade notre parquet, ça et là. On a travaillé aussi sur le bal. On a accompagné des projets de développement territoriaux dans le 93.
Quand vous dites « on »,
C'est une équipe de passionnés et puis nos partenaires, qui soient institutionnels, beaucoup institutionnels ou privés. Voilà, quand on a envie de faire se rencontrer les publics, très clairement, le bal est l'outil de médiation culturelle le plus adapté.
Alors, la Coupole à Montparnasse, les Folies Pigalle à Pigalle. Et là, vous nous dites, la bande de Paname, que ça vous arrive d'aller au-delà du périphérique.
Ah oui, oui, nous baladons. Le bal, c'est une longue histoire. On arrive à ce projet par passion. Au début, c'est anecdotique. On propose le bal, mais parce qu'on aime ça. Et puis en face, on rencontre des acteurs de la culture ou de la ville qui se disent mais c'est une bonne idée. Et en fait, le bal nous amène à rencontrer les publics un peu partout.
Quand vous dites bal, ça veut dire quoi? Ça veut dire des dancing, des gens qui dansent sur le son des vieux tubes de Musette, un mélange de tout ça ou...
Alors le bal, nous on raconte le bal dans tout ce qu'il peut proposer. C'est-à-dire que on ne fait jamais le même bal selon le lieu où on est. Si on est au 104 par exemple, on va faire un grand bal populaire où on va se promener des airs des années 30 jusqu'à ceux d'aujourd'hui, en passant par la variété et tout ce qui compose en fait les airs festifs du patrimoine de la chanson française et autres. Quand on est à la coupole, là, on investit le lieu dans des soirées immersives hein, où on crée.
Encore ce mot immersif. Ça veut dire quoi une soirée immersive pour un bal à la... Alors, organisé à la coupole.
Oh, c'est extraordinaire. C'est donc on propose une thématique qui représente un petit peu l'histoire festive du lieu de son ouverture aux années 80. Le public se costume en fonction de cette thématique. Donc on fait une programmation. Donc il y a toujours de la musique live. Le bal, la définition du bal, c'est vraiment la musique vivante, avant tout. Et sur donc à la coupole, nous avons effectivement une programmation de musique vivante, des performances artistiques, et c'est là jusqu'au bout de la nuit. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, ole.
Voilà, maintenant vous êtes connu en tant que baronne de Paname et vous n'avez toujours pas répondu à ma question, Mélina Sadi. Mmh. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivée à ce stade où aujourd'hui on vous présente comme la reine des bals à Paris?
Alors pour la petite histoire, baronne ça veut dire tenancière en langage familier. Donc ça se prêtait bien à l'idée de redonner des lettres de noblesse au bal. En fait, comment c'est né? C'est né d'une passion. Un jour, j'ai frappé à la porte de la ville de Paris en disant « C'est très très dommage qu'il n'y ait pas de bal sur Paris-Plage, on est au bord de la Seine. Ça serait absolument fabuleux qu'un jour, il y ait vraiment des bals en bordure de Seine pour se réconcilier avec l'idée de danser dehors.
Mmh. » Et avec la carte postale aussi.
Moi, je suis plus attachée à vraiment l'histoire populaire du savoir danser des années 30. On dansait partout, en fait. Tout était prétexte à danser. On allait faire ses courses. D'un seul coup, on rencontrait un accordéoniste sur le coin d'une rue. On s'arrêtait, on chantait. Il y avait des petits formats. Donc, on chantait et on dansait. Ça dansait. Il y avait des balles absolument partout. Tous les 10 mètres, il y avait un prétexte de bal, donc on dansait absolument partout.
Toute une époque. Que vous n'avez pas connue.
Que je n'ai pas connue, mais pour moi, passionnée de Paris, c'est ce qui m'a amenée au bal. Ma première passion, c'est Paris. Ce que j'ai pu en voir au cinéma, quand j'étais petite, ça m'a totalement plongée dans un imaginaire extraordinaire. Donc Paris, pour moi, résonne.
Vous êtes parisienne, vous êtes née à Paris, Mélina Sadi?
Non, pas du tout. Charleville-Mézières.
Vous venez de Charleville-Mézières, ouais.
Carolo-Massérienne. Et quand je regardais la télévision, venait d'arriver, quand j'ai regardé les premiers films sur Paris, où on voyait les gens danser, où on voyait des cabarets, etc. Moi, ça me faisait absolument rêver. Je me dis, moi, quand je serai grande, je veux être parisienne. Je veux absolument aller dans tous ces endroits où on danse. Et plus tard, je ne les ai pas retrouvés, ces lieux. On pouvait danser toutes les danses du monde, mais pas le bal populaire. Donc j'ai eu envie de le proposer et je me suis retrouvée donc sur le Paris-Plage du 19e avec une vraie guinguette, un vrai parquet de bal, 300 mètres carrés de parquet de bal. Et l'aventure a commencé comme ça.
Et l'aventure a commencé aussi avec vos disques, vos vinyles, tout ce que vous avez collectionné comme air populaire des années 30 jusqu'à aujourd'hui.
Ça s'est fait naturellement parce que la mémoire étant ce qu'elle est, j'ai fouillé. Je suis une passionnée de brocante et de vide-grenier, de puces. Et évidemment, on entasse beaucoup de choses et notamment des disques.
Alors, DJ et ambianceuse de bal, organisatrice de bal. C'est votre passion, mais est-ce que c'est votre métier
Ah oui, alors mon métier, c'est très précisément tenancière de bal. Voilà. Et l'idée, c'est de rassembler les savoir-faire, alors ce que j'appelle moi les savoir-faites, qui sont complémentaires pour organiser un bal.
Mais c'est un métier que vous avez inventé de vous-même, je suppose.
C'est juste une pâle copie de ce qui existait avant dans tous les dancing, dans tous les lieux de danse.
Non, mais je vous ai parlé, vous avez été formée à faire ce métier?
Non, voilà, c'est une pâle copie de ce qui se passe au cinéma, de ce qu'on voit dans les bals de l'époque. En fait, on allait chez Mimille, on allait chez tous les bals avaient un nom de tenancier et l'idée c'était d'avoir un rendez-vous festif qui soit représenté par un personnage. Donc c'est pas Mélina Sadi qui reçoit le public, c'est la baronne de Paname, et qu'il y ait un
donc
référent.
Donc c'est un personnage.
Un personnage.
Et là par exemple, est-ce que vous êtes habillée en baronne de Paname ou c'est vos habits de tous les jours, Mélina Sadi?
De tous les jours. C'est encore les références du cinéma. J'aime beaucoup les années 40, donc je m'habille essentiellement années 40.
Vous êtes arrivé à Paris à quel âge?
Pour mon adolescence, donc dans les années 80.
Quel métier vous avez exercé avant de
venir? J'ai fait plein de métiers et j'ai continué à faire plein de formations pendant tout mon parcours professionnel. Et ensuite, quand j'ai quitté ma dernière profession, j'étais graphiste dans l'édition pendant 10 ans. Dans une maison d'édition généraliste très connue. Et j'ai quitté mon travail pour faire du bal. Ce qui a totalement stupéfait mes collègues de l'époque. Ils m'ont dit, mais prends une année sabbatique et reviens. Je dis, non. C'était sans parachute.
Et vos nuits parisiennes ressemblaient à quoi?
Je me suis promenée dans tous les lieux très tardivement. J'avais 38 ans. Je me suis promenée un petit peu dans tous les lieux où on dansait. Toutes les danses à deux, donc la salsa, le tango, le swing, le rock'n'roll, le bebop, enfin le foro. Je me suis un petit peu promenée. C'était un voyage un peu initiatique.
Et que vous aimez danser?
J'ai découvert que j'aimais danser très tardivement, et ça a été fabuleux. Et aujourd'hui, je le propose.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec des musiques choisies par la baronne de Paname. Qu'est-ce qu'on écoute là, par exemple?
Alors, c'est une bande d'un film extraordinaire qui a été tourné en 1944. Et j'ai choisi ce morceau du film qui s'appelle Pin-Up Girl, qui est un film de motivation des troupes pour aller faire une guerre sur le vieux continent. Cette musique, en fait, c'est une chorégraphie qui est une danse apache. Et la danse apache, c'est la représentation du bal musette aux États-Unis par les Américains, dans le cinéma américain, dès les années 20.
Et c'est qui la pin-up?
Et là, c'est Betty Grable.
Qui était réellement la grande pin-up à l'époque où les G.I.s allaient à l'autre bout du monde se battre contre les nazis.
Tout à fait, c'est le film qui a créé le genre pin-up, l'histoire de la pin-up.
Et qu'est-ce qu'elle chante là?
Alors là, elle chante c'est surtout la chorégraphie qui est très importante, puisque donc c'est une danse apache avec Hermès Pan, qui est le chorégraphe de tous les films de l'époque, les films dansants de l'époque. Et c'est une conversation dansante entre deux Parisiens, parce que là, toutes les références y sont, c'est bleu, blanc, rouge, le danseur est habillé en apache, et elle est un petit peu une représentation d'une fille de saloon, un peu, enfin de dancing.
Allez, on l'écoute.
about once too often. I'm getting mighty sick and tired of toting a torch for you. So just be careful, brother, I too can find another. Remember, anything that you do, I can do too. Once too often, I'll get the go-by once too often, and then you'll have to change your tune and sing in a different key. That mind that you've been using will cease to be amusing. It's gonna boomerang when you come looking for me. You're a wizard when it comes to crying, a master in the art of alibiing. Go on and do your tall and fancy lying, baby, but you will say you're sorry once too often. You're gonna weep, but I won't soften. You're gonna whimper like a pup the day I catch up with you. Step out, go on and show off. You're gonna give my heart the business once too often.
Once too often, Betty Grable. Alors, vous programmez cette chanson dans vos balles là.
Oui, bien sûr, oui.
En tant que baronne de Paname, vous avez un choix éclectique. C'est pas seulement l'accordéon, c'est pas seulement les vieilles chansons, les vieux tubes français. C'est assez ouvert.
Le bal, l'esprit du bal, en fait, c'est d'abord de la mixité. Le musette, par exemple, qu'on présente toujours comme quand j'avais commencé à faire des bals, on m'avait dit oh là là, c'est bleu, blanc, rouge, etc. C'est, enfin voilà, avec un côté, on m'a même dit c'était un côté pétainiste, alors que pas du tout. Mais le musette est une musique de brassage. On a des tas d'influences exotiques dans le musette. On a évidemment l'influence de la musique italienne, mais musique espagnole, la musique sud-américaine.
C'est vous qui faites les choix musicaux, je suppose. Hein.
Oui, mais c'est le public aussi je n'ai jamais une programmation préétablie. Je passe les musiques en fonction de ce qui se passe dans la salle. Donc c'est très très instinctif.
Mais alors parlez-nous de ce public. Par exemple, vous faites une soirée une fois par mois à la Coupole. Hein. Ça s'appelle Paris Folies.
Les Paris Folies.
Ouais, ouais. D'abord parlons du public.
Alors l'histoire du Paris Folies, c'était un petit peu comme pour la première musique qu'on a passée tout à l'heure. C'est un petit peu c'est un petit peu le bal des Torrescola. On raconte l'histoire du dancing par décennie. Donc on a des thématiques des années 20, 30, 40, 50 jusqu'aux années 80. Et là on propose des thématiques et le public qui vient, c'est un public très hétéroclite. C'est un public, on peut dire, d'esthète, de personnes qui ont envie de s'essayer aux costumes, qui ont envie de s'essayer aussi aux musiques, puisqu'on passe des...
C'est toujours costumé, donc.
C'est en costume, oui. Pour permettre l'immersion, pour permettre le voyage, pour permettre... Et le bal, c'est aussi le costume. On s'habille pour aller au bal. On peut avoir un bal populaire d'aujourd'hui avec le vêtement d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au 104, mais le bal immersif permet vraiment de raconter le bal. On est entre une démarche festive et une démarche patrimoniale.
Est-ce qu'il y a dans votre équipe des danseurs qui donnent le la, ou les gens dansent comme ils veulent, comme la musique les entraîne?
Alors c'est une très très bonne question, parce que souvent on me dit mais je peux pas venir à tes bals parce que je ne sais pas danser. Mais non, pas du tout. Le bal permet la rencontre, toutes les formes de rencontre, et la rencontre aussi chorégraphique en fait. On a effectivement un noyau de bons danseurs, mais par mimétisme, à force de gigoter, finalement on mime les danses. Et sans s'en rendre compte,
mais
on apprend.
Mais ce noyau de bons danseurs, font partie de votre équipe, ou ce sont des gens que vous invitez?
Ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés qui viennent au bal. Ils font partie effectivement du noyau, du vivier qui vient nourrir. Si on n'a pas de bons danseurs, le bal ne se déclenche pas.
Et c'est quelle tranche d'âge?
Tous les âges. Mais vraiment tous les âges. Thank you.
là, ça c'est bien vieux. La Baronne de Paname, vous programmez aussi des 78 tours. C'est un 78 tours, ce qu'on écoute là.
C'est une vraie galette.
Ah, une galette.
Que l'on passe sur un phono. Et là, c'est vraiment la version originale d'Émile Vacher.
1932, La Mauve Caoutchouc.
Le film d'Anatole Litvak, qui est extraordinaire, qui est moi mon film préféré, qui est plus un film, ça date, enfin c'est plus du reportage d'ailleurs que du film seulement de fiction, parce qu'il y a des images extraordinaires sur Paris.
Et ça fait danser des gens.
Ah, absolument, c'est impossible de ne pas danser. C'est-à-dire que très clairement, quand on vient en bal en tant que curieux, très vite on est pris dans le bal.
Et qu'est-ce que vous faites pendant les bals, Mélina Sadi, vous qui êtes connue comme la Baronne de Paname, organisatrice de bals, vous dansez ?
Je danse, je fais danser beaucoup, je repère les âmes esselées pour les faire rentrer dans le bal. J'active un peu la rencontre, je fais des propositions évidemment de programmation très variées, j'essaie de faire en sorte que le public ne soit jamais installé dans un genre.
L'amour caoutchouc, qu'on peut faire avec elle, oh c'est fou. Elle vous fera et toc, on n'est plus culotte. Ah, c'est pas du tout. Elle vous dit ce que l'amour caoutchouc, c'est un loup et un drôle de petit bout. On la cherche en dessus, mais on la trouve en dessous. L'amour caoutchouc. La
Baronne de Paname à la Coupole, une fois par mois pour les soirées Paris Folies et les dimanches après-midi de 15h à 19h, c'est autre chose. C'est un bal à l'ancienne.
C'est le bal à Gabin, ouais. Où on entend effectivement ce genre de version. Et l'idée, c'est là aussi...
Vieille chanson française, donc.
Vieille chanson française. Alors on va jusque dans les années 60-70. Quelquefois on pousse un petit peu même vers le disco quand on nous le demande vraiment, mais sinon on reste vraiment sur le patrimoine de la chanson française. Et l'idée, très clairement, c'est de faire en sorte que le musette fasse partie intégrale du paysage culturel parisien. Je dis toujours que Paris sans musette, ça serait comme Buenos Aires sans tango. Donc je voudrais vraiment que, je sais pas, dans deux ans, le musette fasse vraiment, soit un incontournable et que les Parisiens surtout soient réconciliés avec le genre musette.
Musique, spectacle et littérature, ce soir à la Maison de la Radio, je sais pas ce que vous faites là ce soir, mais ce soir et demain, on donne en représentation ici même à la Maison de la Radio, Gatsby le Magnifique avec le rappeur Sofiane Fianso et Rebecca Malder de la Comédie française, la plus jeune sociétaire en ce moment de la Comédie française, Rebecca Malder. C'est bien sûr Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, le fait de mélanger les univers, ça fait partie un peu de votre parcours.
Ah, complètement.
La Baronne de Paname.
Ah, complètement. Nous, sur nos balles, c'est le cas aussi au 104, notamment, on a des artistes de hip-hop qui viennent apprendre la valse et faire des petits happenings avec des danseurs de musette. Et bon, j'adore ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment ouverte à toute la musique. Je suis très, très curieuse et j'aime la rencontre.
Toutes les musiques que vous avez pu écouter aujourd'hui dans le Réveil culturel ont été choisies avec la Baronne de Paname en invitée, organisatrice de bal. Alors, je vous rappelle, ce soir, notre spectacle, l'adaptation du chef-d'œuvre de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, avec le rappeur Fianso, Sofiane et Rebecca Malder de la Comédie Française. C'est ce soir à 20h et demain aussi à la même heure. Vous pouvez venir avec vos enfants. Surtout, ne vous gênez pas, c'est un spectacle pour tout le monde. C'est à la maison de la radio ce soir et demain. Et votre prochaine soirée à la Coupole?
Samedi 11 mai. Et on fait une soirée spéciale Victoire 1945. Donc ça va être très très festif et avec une immersion très particulière, plein de surprises. Un plateau à peu près de 40 artistes.
Il faut venir habillé, je suppose, en tenue civile ou militaire ou...
Vous pouvez faire l'un ou l'autre et puis réinventer. On ne fait pas de la reconstitution historique, hein. On fait juste une proposition. Donc inventez votre costume de bal, il n'y a aucun problème.
Et les prix ? Sont à la portée de tout le monde.
Prix démocratique pour tout le monde, 15 euros.
Merci d'être passé ce matin.
Merci.